La cathédrale Notre-Dame de Paris rouvre ses portes après le terrible incendie qui l'a ravagé le 15 avril 2019. Sa réouverture est un événement international, spirituel et culturel. Que dit cet engouement de l'attachement de nos contemporains à leur cathédrale? La question est posée ce matin au père Simon Darty, curé de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Bonjour père.
Bonjour Isabelle.
Lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'émotion a été vive, tant pour les croyants que pour les non-croyants. Comment expliquez-vous cette réaction?
Moi aussi, j'ai été étonné par l'espèce d'unanimité qu'il y a eu autour de ce drame. Je crois que les cathédrales en général, au cœur de nos villes, elles disent à une présence d'abord culturelle, évidemment, et pour nous, une présence spirituelle. Elles sont vraiment des monuments emblématiques. Et ce qui est vrai de toutes les cathédrales de France, chacun pour sa ville, l'est de manière emblématique pour Notre-Dame de Paris, qui est comme, je n'ose pas dire la cathédrale de la France, mais elle se trouve, voilà, elle se trouve vraiment... Donc il y a un attachement, je crois, très...
qui n'est pas que spirituel,
qui est charnel, exactement, qui est charnel, qui n'est pas que spirituel je pense, la plupart des Français, comme vous disiez, croyants ou non, ce bâtiment. Et donc, le voir en flammes, c'est une partie du cœur de chaque Français qui brûlait, quoi, et qui était touché.
Oui, c'est vrai. Une étude réalisée pour La Croix et publiée le 24 novembre dernier indique que les trois quarts des catholiques pratiquants interrogés ont exprimé leur intention de visiter la cathédrale. Quel sens revêt cette démarche, à votre avis?
Alors là aussi, je pense qu'il y a cet attachement... à la cathédrale. Il y a aussi cet élan national qui a touché tout le monde. Et cet élan, il se traduit de la plus belle des manières en allant en pèlerinage. Parce que je pense que c'est pas, pour les catholiques en tout cas, puisque vous citez les catholiques, je pense que c'est pas juste une dimension de visite. Même si après, il y a cette dimension de visite pour beaucoup de touristes. Tout le monde n'y vient pas en pèlerin. Mais pour les catholiques, je pense que il y a quelque chose de l'ordre de, pas de la réparation, mais du pèlerinage, quoi, d'un pèlerinage qui nous fait aussi, le pèlerinage, ça nous fait toujours goûter à la joie. Et après un drame, on n'est pas toujours certain qu'on sorte d'un drame, ou comment est-ce qu'on en sortira. Là, il y a quelque chose quand même
d'un aboutissement
et d'une joie, d'une grande joie, de voir ce qu'on a vu des images de la restauration. Ouais. C'est quand même une grande joie. Et un pèlerinage, ça nous fait goûter à la joie. En fait, on peut rester un peu loin de la joie parfois, mais de s'approcher de ce lieu. Pour nous, les églises, elles ne sont pas simplement des symboles. Elles sont un lieu où se vit la prière, où le Seigneur est présent. Et donc, voilà, je pense que d'y aller pour la visiter, d'y aller en pèlerinage, c'est goûter, toucher quelque chose de cette joie de la reconstruction, de la rénovation de Notre-Dame de Paris.
Oui, c'est une forme de résurrection finalement,
de résurrection.
Alors, nous sommes nombreux à avoir suivi avec intérêt le chantier de restauration de Notre-Dame. C'est vraiment une démonstration du savoir-faire de l'artisanat français. Outre cette prouesse architecturale, quel autre sens donner à l'adhésion des chrétiens à ce chantier?
Alors, je ne sais pas trop, mais je pense qu'il y a eu... Il y a eu quelque chose qui ressemble à ce que dit saint Paul dans « Chacun a sa place dans le corps du Christ ». La participation de tant d'ouvriers, de corps de métiers différents, ça dit quelque chose de l'Église, en fait. Voilà, que chacun trouve sa place, chacun œuvre à sa manière, à la construction de cette Église. Et donc, il y a cette partie qui est spirituelle. Et puis après, il y a quand même un émerveillement de voir tous ces artisans se mettre à l'œuvre. Parce que derrière tous ces artisans, il y a aussi tous les donateurs, en fait, qui ont soutenu ce projet. Donc, en fait, on voit une espèce de concentration de savoir-faire, de générosité, de talent pour relever Notre-Dame de Paris. Et ça aussi, ça participe de la joie dans une période qui n'en est pas forcément remplie. Je me dis que cette réalisation-là, elle dit quelque chose du génie français, du génie chrétien aussi, bien évidemment. Et ça, ça réjouit le cœur des catholiques, ça réjouit le cœur de tous les Français d'ailleurs, je suis certain.
Il
y a un lien très très étroit entre les cœurs catholiques et les cœurs français, c'est certain aussi. Enfin, tout ça, tout cet événement, l'émotion qu'a suscité et l'incendie, et la reconstruction, et la réouverture, dit le lien très étroit qu'il y a entre la France et Notre-Dame de Paris, entre la France et la religion catholique. Voilà, c'est parfois la laïcité, elle a tendance à durcir des frontières un peu intellectuelles, mais là, on voit, comme vous le disiez, hein, de manière charnelle, de manière existentielle, que les Français sont attachés à leur cathédrale et à cette foi catholique.
Alors, il y a quand même une question qui fâche, c'est la question de l'entrée payante, hein, pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une question qui a été posée par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Paris, s'y oppose. Père Simon d'Artigues, d'abord, avant de vous demander votre avis, sur quels fondements juridiques cette opposition a lieu?
Alors, juridiquement, ça va être compliqué parce que la loi sur la laïcité, la loi de 1905, stipule que justement les églises sont ouvertes de manière gratuite et exclusive pour le culte, quoi. Donc, ça va être soit il va falloir changer la loi de 1905, et ça me semblerait étrange de changer cette loi à l'occasion de la restauration de Notre-Dame. Juridiquement, alors il y a certainement des moyens de le faire, hein, mais ça me semblerait étonnant qu'on se serve de la réouverture de Notre-Dame pour toucher à une loi, à la loi de la
De
laïcité, quoi,
séparation
voilà,
de l'Église et de l'État.
qui est une loi dont on sent qu'elle est fragilisée parfois, et c'est pas le moment, en fait, de la remettre en cause.
Oui. Et quel serait le risque de faire payer, et notamment, ça peut être pour toutes les cathédrales aussi de notre région et les cathédrales de France, et pour visiter les églises, qu'est-ce pourrait être le risque? Parce que ça se fait quand même dans les pays étrangers.
Oui, c'est vrai, ça se fait dans les pays étrangers. Mais leur régime n'est pas le même. Mais moi, c'est pas tant d'un point de vue juridique, c'est-à-dire qu'il faut se placer, que du point de vue de ce qu'est la gratuité, en fait, et de ce qu'est la gratuité et de ce qu'est une église, en fait, ou une cathédrale, en l'occurrence. Dans notre société, il n'y a plus de lieu de gratuité. Tout est payant, tout est monnayable, tout est mis sur le plan du commerce, et ça me semble d'une importance immense que de maintenir au moins un lieu de gratuité, un lieu de gratuité et de beauté. En fait, ce dont notre monde manque, c'est certainement la gratuité et la beauté. Et d'ailleurs, dès que la beauté est payante, elle perd quelque chose de sa beauté. Donc voilà, donc maintenir un lieu de gratuité, ça me semble absolument essentiel dans un monde qui risque de nous étouffer. Et que ce soit l'Église qui soit ce lieu de gratuité, elle l'est, j'allais dire, théologiquement. Enfin, c'est le lieu où la grâce se déverse. Et cette grâce, elle est pour tous. Enfin, la gratuité des Églises, elle dit justement que ce trésor qu'est Notre-Dame, et avec la magnificence, hein, de cette restauration, elle n'est pas pour ceux qui peuvent se l'offrir, en fait. Elle est pour tous, et particulièrement pour les plus pauvres et les plus petits. Voilà, les plus grands des trésors, ils sont dans nos cathédrales. Pour nous, le plus grand des trésors, c'est Jésus-Christ au tabernacle, contenu, hein, dans toutes les cathédrales et la moindre église. Et il est accessible à tous, mais il y a aussi tous les trésors du génie humain, de l'art, que n'importe qui, auquel n'importe qui doit pouvoir accéder. Aujourd'hui, dans les musées, on peut pas, tous ne peuvent pas accéder. Une cathédrale, le SDF, le petit enfant, l'étranger peuvent y venir et bénéficier de ces trésors. Et puis, il y a aussi ce lieu que une église, et la cathédrale Notre-Dame de Paris, est un lieu qui a été consacré à Dieu pour la prière. Et donc, faut pas oublier, si jamais on le marchandise, si jamais on fait payer son entrée, eh bien, ça veut dire qu'en quelque sorte, non pas qu'on l'exècre, hein, c'est le terme exécré, on s'en sert de manière générale maintenant, mais c'est un terme qui est purement religieux, qui est celui de la déconsécration. Voilà. Donc, on dit quand on exècre quelque chose, c'est qu'on le déconsacre. Mais en français, il n'y a pas de déconsécration. Mais du coup, si jamais on veut faire payer l'entrée, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose où on désacralise la cathédrale qui est faite pour la prière, qui est faite pour Dieu, qui est faite pour le culte. On peut aussi la visiter comme touriste, mais je crois que c'est Monsieur Ulrich qui disait d'abord c'est compliqué hein, de distinguer à
Eh oui.
l'entrée entre un touriste et un pèlerin. Et puis qui nous dit que, vous savez, comme Paul Claudel à Notre-Dame de Paris, on y entre par hasard, on y entre comme touriste, et puis ben, touché par la grâce, touché par la gratuité, on en ressort comme chrétien. Voilà. Donc je vois un risque, mais qui est un risque qui n'est pas seulement pour Notre-Dame de Paris ou pour une espèce de marchandisation de toutes nos églises, hein. C'est un risque pour la société tout entière, en fait, de chasser toute forme, de
De
gratuité.
gratuité, oui. Et c'était justement ce qui était à l'origine de la construction des cathédrales, c'était d'offrir à travers les vitraux, les statues et toute cette beauté une catéchèse à tous ceux qui passaient. Et là, il y avait
Absolument.
cette gratuité. Ouais.
Oui. Et d'ailleurs, le parcours spirituel qui a été organisé dans la nouvelle cathédrale, enfin dans la cathédrale restaurée, prévoit ça. Prévoit une découverte de la foi catholique pour tous ceux qui y entrent. Voilà.
Et c'est
En fait,
heureux.
c'est pas un monument comme un autre. Voilà. C'est pas un monument comme un autre. Une église n'est pas un monument comme un autre. Et c'est certainement à nous, hein, catholiques, de le défendre, de le promouvoir, de faire en sorte que on ne veuille pas tout commercialiser. Voilà. Je pense que c'est dangereux, en fait, ce tout commercial.
Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quand même une solution qui pourrait être envisagée? C'est vrai que, par exemple, pour la basilique Saint-Sernin, il y a quand même 645 000 visiteurs par an, 366 000 aux Jacobins, ça c'est en 2022, j'imagine que les chiffres ont évolué, certainement des milliers de visiteurs à la cathédrale Saint-Étienne. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de se priver des ressources nécessaires à l'entretien et à la restauration de ces édifices, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une petite solution intermédiaire?
Alors, je sais pas, en fait. On voit bien, d'ailleurs, à Notre-Dame, c'est déjà le cas. Pour accéder aux tours de Notre-Dame,
Voilà, ça peut être
c'était
pour
payant
une...
pour accéder à
Voilà.
tel ou tel endroit, voilà, dans un trésor ou à un cloître. Ça me semble envisageable et ça l'est déjà. Mais en fait, voilà, y a toujours ce risque de privatiser des lieux qui sont. Qui sont publics de par la loi, mais qui sont publics plus encore spirituellement, voilà, qui doivent le rester. Donc, moi, j'ai quand même une vigilance sur ce désir, surtout quand ce désir, en fait, bien sûr que il s'agit de. C'est ce que disait Madame Dati, hein, elle disait que de faire payer Notre-Dame de Paris permettrait de restaurer
Ben oui,
un nombre incroyable
toutes les
de.
églises de
Voilà.
France, ouais.
Et de fait, on voit bien que le gouvernement cherche de l'argent partout, mais justement, pas à tout prix, voilà, pas quoi qu'il en coûte, comme on l'entend parfois, parce que quoi qu'il en coûte, ça nous fait parfois perdre notre âme.
C'est ça.
Et si on perd l'âme de nos églises, ben on perd l'âme de la France, en fait. C'est certainement le dernier lieu où l'âme de la France est conservée. Et donc c'est un trésor, l'âme de la France, c'est un trésor dont nous, catholiques,
Les gardiens.
sommes les gardiens, oui, tout à fait. Et je pense que, vous voyez, pour boucler avec la première question que vous posiez, l'émotion de l'ensemble des Français, quand ils ont vu Notre-Dame en flammes, c'est parce que ça touche directement l'âme de la France. C'est pas juste les catholiques ou un bâtiment ou quelque chose de culturel, en fait. C'est que c'est la France, dans son âme qui était touchée.
Oui. Pour terminer, Père Simon d'Artigles, est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils enfin, un conseil pour toute personne qui entre dans une cathédrale et peut-être notamment pour un chrétien qui vient visiter une cathédrale et comment peut-il être dans une dimension spirituelle quand même et pas seulement culturelle?
Moi, je trouve que la première chose, en entrant dans une cathédrale, pour un chrétien, en tout cas, puisque vous le dites, c'est d'abord de faire son signe de croix, en fait, de chercher le bénitier, puis de faire un signe de croix. Et la deuxième chose, c'est d'aller visiter, d'aller saluer celui pour qui cette cathédrale a été bâtie, le Christ. Et donc d'aller chercher le Saint-Sacrement, en fait, de pas suivre le parcours habituel, mais se dire, ben, en premier, cette cathédrale que je vais visiter, parce que c'est honorable de la visiter, elle a été bâtie pour quelque chose. En fait, il faut toujours chercher. Vous savez, les gens disent tout le temps, Moi, j'aimerais trouver du sens à mon travail, un sens à ma vie, un sens à mon couple, un sens à... Eh ben, il y a un sens à nos églises, il y a un sens aux cathédrales. Elles ont été bâties pour Jésus-Christ. Et donc, d'aller le chercher lui en premier, d'aller le visiter, d'aller le saluer, comme quand on entre dans une maison, on salue d'abord la maîtresse de maison, le maître de maison. Ben là aussi, on va saluer le maître de maison, on s'approche du tabernacle,
On suit
on
cette
peut...
petite lumière
Voilà,
rouge.
on cherche cette lumière rouge qui indique la présence de Jésus dans le tabernacle. On peut s'agenouiller, on peut dire un Notre Père. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est mis en sa présence, ben, tout le reste de la cathédrale est ordonné autour du Christ. Et donc tout ce qu'on va voir de la cathédrale, des tableaux, des chapelles, des œuvres d'art, tout ça est ordonné et donc ça nous permet de le comprendre touristiquement, mais de le comprendre d'abord spirituellement, en fait, que tout ça a été fait uniquement pour Jésus-Christ, voilà, pour Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Voilà, la présence de nos cathédrales dans nos villes, elle est pour manifester la présence de Dieu. Et donc nous, quand on les visite, en effet, il s'agit d'abord de visiter Dieu qui nous visite. Et puis ensuite, ben, en effet, on va faire le tour de la cathédrale. Et souvent, il y a des moyens qui sont donnés pour visiter, enfin, les grands lieux
Oui, pour
d'une église. Hein, il y a toujours
s'arrêter.
des parcours et pour essayer de les comprendre. Mais parfois, ils ne sont que un peu historique ou un peu artistique, en oubliant le sens. Voilà. Or, l'Église, elle est là pour redonner du sens, redonner un sens à nos vies, à nos visites. Et ça, on peut le trouver dans les cathédrales, à Notre-Dame. Voilà. Les célébrations qui vont avoir lieu, elles sont aussi l'occasion, hein, la publicité qui leur en est donnée est aussi l'occasion de redire que le sens de nos vies, nous les trouvons dans ce trésor qu'est l'Église.
Merci beaucoup, Percy Mondartier, curé de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Bonne journée.
Merci.